Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter l'aïoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos. Eh bien, bonjour aux auditeurs de Radio Galère, vous êtes bien en 2014, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, c'est la huitième du genre. Et aujourd'hui, avec Mathieu, nous avons décidé de délirer un peu et de concocter une émission spéciale consacrée à la langue de bois, la langue néolibérale, ce qu'on appelle le novlangue. Et c'est ce que nous allons modestement tenter avec vous, chers auditeurs. C'est un décryptage des mécanismes de ce novlangue afin de pouvoir s'en désintoxiquer et même y résister autant que possible. Alors, on s'y prend comment, Mathieu ?
Eh bien, écoute, Hervé, moi, je pense que tout d'abord, il faut commencer par citer les deux sources principales qui nous ont permis de construire l'émission et que nous avons pillées sans vergogne, il faut bien le dire. Alors, en premier lieu, il y a la coopérative d'éducation populaire Le Pavé. Pour les auditeurs intéressés, vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche sur Internet Scope Le Pavé et vous serez très certainement renvoyé vers le site Internet de cette coopérative sur le site www.scopelepavé.org. Et c'est une véritable mine d'informations. Vous y trouverez entre autres des conférences gesticulées et un superbe dictionnaire collectif de la langue de bois que je vous invite à consulter et à compléter autant que possible. La deuxième source, c'est le livre culte de George Orwell, 1984, dans lequel est utilisé pour la première fois ce petit vocable de novlangue.
Bah, une petite explication tout de même pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas lu le livre. Dans 1984, le héros vit dans un état totalitaire et policier, rien à voir avec la France, dans lequel sévit la police de la pensée. Son travail consiste à supprimer des mots dans le dictionnaire et dans la langue parlée. Et la langue de cette société s'appelle le novlangue. Il s'agit d'une langue qui est réduite à sa fonction de communication et d'où toute fonction d'organisation des perceptions et de la pensée, toute fonction de transmission et d'échange de sens est impitoyablement supprimée.
Oui, et d'ailleurs, ceci est superbement exprimé dans la fameuse devise de l'État totalitaire en question, que je vais vous citer maintenant. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force.
En gros, la thèse défendue par Orwell dans le bouquin est la suivante. Pour tout totalitarisme qui voudrait se maintenir en place, bien plus efficace que la répression policière ou armée, l'attaque du langage est un impératif afin d'interdire, d'enlever aux groupes dominés la possibilité même de pouvoir penser la domination qu'ils subissent.
Et c'est pourquoi nous, à Attaque, justement, nous essayons de penser. Et nous pensons qu'il est nécessaire de tenir la parole et le langage comme premier terrain de résistance à la déshumanisation et à la confusion ou à l'insignifiance véhiculée par le néolibéralisme. Et qu'il est donc nécessaire de s'armer à cette résistance sur ce terrain. C'est le sens de l'émission d'aujourd'hui, une modeste contribution à la résistance dans le langage.
Alors on y va, on résiste. Dans un premier temps, ce que nous allons faire avec Mathieu, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement de ce novlangue néolibéral, c'est-à-dire que nous allons énumérer et décrire les différentes catégories, les différentes figures de style de cette langue de bois.
Oui, et nous en avons dénombré 12. Alors ça va évidemment vous demander un petit effort d'attention, mais qui n'est pas négligeable, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de mal à essayer de s'élever un petit peu. Alors la première catégorie de cette langue de bois, ce sont les euphémismes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un euphémisme ? Un euphémisme, ça sert à renommer une réalité trop dure en l'adoucissant. Il permet ainsi d'enlever une part de la charge négative d'un mot, négative dans le sens d'un éloignement de la norme sociale communément admise. Le problème étant que les nouveaux mots finissent quand même par désigner la réalité qui, elle, ne s'adoucit pas. Il faut donc régulièrement en inventer de nouveaux. Alors j'ai quelques exemples que j'ai pu dénombrer. Il y a par exemple le mot vieux qui devient personnes âgées et puis personne du troisième âge, et enfin senior, et ça se termine par âge d'or. Nous avons les pauvres qui deviennent des publics défavorisés et qui deviennent ensuite des publics fragilisés. Nous avons également les jeunes en difficulté, qui deviennent des jeunes avec moins d'opportunités ou des jeunes avec moins de possibilités dans le langage officiel européen. Et également les quartiers populaires, qui deviennent défavorisés, puis sensibles. Les expulsions deviennent des procédures d'éloignement. Et également dans le langage militaire, les guerres deviennent des conflits et les bombardements deviennent des frappes chirurgicales. Et enfin, le dernier, qui est quand même un des plus amusants, ce sont les licenciements, qui sont devenus des plans sociaux et ensuite des plans de sauvegarde de l'emploi.
Oui, on trouve aussi dans la famille novlangue les hyperboles. C'est l'inverse de ce dont vient de parler Mathieu, donc l'inverse de l'euphémisme. Donc les hyperboles, ça, il s'agit de nommer une réalité par un terme qui la durcit. Par exemple, quand des ouvriers font grève, on va dire qu'ils prennent les usagers en otage. On peut citer d'autres mots qui sont utilisés de cette façon-là, par exemple fasciste, terroriste ou extrémiste.
Et puis nous avons les sigles. Alors, ils permettent de cacher la signification réelle du sigle. Ils permettent de faire écran, si vous voulez. Et donc, de faire de la rétention d'informations sur des réalités à peu de frais. Alors, c'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure, avec les jeunes devenus des jeunes avec moins d'opportunités ou des jeunes avec moins de possibilités, ça devient des jameaux ou des jampes. Donc là, c'est plus qu'un son sans signification. Et puis, en même temps, on peut se dire qu'ils ont qu'à se bouger le cul, hein, ces petits jeunes, pour se trouver des opportunités et des possibilités. Il y a également les US, les ZEP, les ZRR et autres sigles. Ce ne sont plus des quartiers populaires ou des ghettos de pauvres, mais ça devient des zones sensibles. On est d'ailleurs porté à se demander ce que seraient des quartiers, les autres quartiers. Peut-être que les autres quartiers sont des quartiers insensibles. SDF pour clochard. On a également DRH pour chef du personnel. Et il y a aussi des sigles qui permettent de mesurer très rapidement si quelqu'un est novice ou non dans un champ particulier. On peut entendre par exemple quelqu'un qui pourrait dire « on travaille dans le CUX pour la NRU en contrat CAE ».
Et puis, il y a les oxymores. Alors, les oxymores, c'est quoi ce drôle de truc ? Il s'agit de coller deux termes antinomiques. Par exemple, entre le sens étymologique et le sens commun, il est facile de donner, de contester le qualificatif d'oxymore. L'intérêt, c'est de brouiller les cartes, en fait, et d'empêcher une analyse ou une remise en cause de ces concepts qui vont dans le bon sens. Par exemple, on va dire le développement durable. On se demande ce que serait qu'un développement qui ne serait pas durable. Le développement soutenable, le commerce équitable, la discrimination positive, l'égalité des chances. Bon, parce que c'est soit l'égalité, soit les chances. Il faut choisir. L'égalité des chances, c'est la définition même de l'inégalité. L'entreprise citoyenne. La flexi-sécurité, pour dire fragilisation ou précarisation. Le capitalisme moral, celle-là, elle est assez bonne. La croissance négative.
Mais c'est vrai qu'il faut le voir, ça. Viennent ensuite les pléonasmes. Alors, dans le cas des pléonasmes, il s'agit de coller deux termes ayant le même sens. Ils permettent de persuader à peu de frais que la réalité nommée correspond bien au concept qui la nomme. Ça permet de renforcer le terme qui est un peu vacillant, de le crédibiliser. Alors là, c'est très très évident dans le terme « démocratie participative ». C'est au minimum un aveu, c'est en tout cas un mensonge, parce qu'effectivement, la démocratie n'est-elle pas censée être participative ? Il y a également la participation citoyenne. On rencontre également ce concept dans la citoyenneté active ou dans le lien social. On peut effectivement se demander ce que serait un lien qui ne serait pas social.
Et il y a aussi les tautologies. Alors, la tautologie, ce n'est pas des histoires de toto, ça vient du grec tautologos, c'est le fait de redire la même chose. Alors, c'est une phrase ou un effet de style qui est ainsi tourné pour que sa formulation ne puisse être que vraie. La tautologie peut s'apparenter à ce qu'on appelle le truisme. Allez, on va dire autrement une lapalissade. En logique, le mot tautologie désigne une proposition qui est toujours vraie. Alors, on va dire, par exemple, la vraie vie ou la vie, la vraie, au champ. On se demande c'est quoi la vie, la fausse. 100% de nos clients achètent nos produits. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Votez pour le parti gagnant.
Il y a aussi les anglicismes. Alors, dans ce cas-là, il s'agit de remplacer des mots français par des mots anglais. Ce que ça permet, c'est la revalorisation d'une réalité nommée. Ça permet de la rendre plus dynamique, plus moderne, plus in et moins has-been. Parler par anglicisme permet de se situer dans l'échelle sociale. C'est plus classe, voire plus upper class. Alors, dans cette catégorie, on retrouve évidemment les petits boulots qui sont renommés « job ». Le turnover, pour parler de la difficulté de tenir un poste. Il y a également les mots qui servent à désigner le chef. On a le manager, le leader, le coach. Parce qu'évidemment, chef, on est bien d'accord pour dire que ça fait ringard et archaïque. On trouve également le terme intime pour désigner une équipe de travail. Le terme de management pour la direction du personnel. Et enfin, dans un contexte plus économique, il y a le terme de benchmarking qui peut signifier intelligence économique quand c'est à votre profit. Et quand vous le subissez, vous l'appelez de l'espionnage industriel.
Et puis, il y a les concepts opérationnels. Alors, c'est quoi les concepts opérationnels ? Il s'agit d'inventer des mots qui empêchent de penser la réalité de manière négative et qui orientent la pensée vers l'action, vers l'opération. Par exemple, projet qui signifie produit et qui remplace hiérarchie comme étant le mot le plus employé dans les ouvrages de management en 2000. La croissance, le développement, le territoire, la démarche qualité.
Il y a aussi les technicisateurs. Il s'agit de renommer de manière technique et moderne une réalité, ce qui permet de la revaloriser en faisant croire qu'elle s'est modifiée alors que tout est resté pareil. Alors dans cette catégorie, vous avez bien évidemment le terme de technicien de surface qui vient signifier balayeur. Vous avez également les sans-papiers pour clandestins. Vous avez des petits mots plutôt sympathiques dans l'éducation nationale. Vous avez le terme assistant d'éducation pour surveillant, le terme de référentiel bondissant pour nommer un ballon. Vous avez également le terme hôtesse de caisse pour caissière, assistante de direction pour secrétaire et également opérateur pour ouvrier.
Aussi, on peut citer les néologismes ou barbarismes. Il s'agit de mots inventés ou piqués dans d'autres langues, mais non acceptés en français. Alors lorsque c'est volontaire, ça s'appelle un néologisme. Quand c'est involontaire, c'est un barbarisme. Par exemple, le glamping, qui est employé à la télévision par un entrepreneur pour parler de son concept de camping de luxe. Le glamping, ce serait la contraction de glamour et de camping. On peut trouver aussi acter une décision. Le rencontring. Alors le rencontring, celui-là, je l'adore. Le rencontring, ça pourrait être une mise en valeur de la rencontre, comme le meeting, par exemple, rehausse la réunion, si vous voulez. Ainsi, aujourd'hui, assister à des réunions, c'est ringard, alors qu'être présent à un meeting, c'est autrement plus dynamique et constructif. Franchement, si on propose le choix entre une réunion et un meeting, je n'hésite pas une seconde, je fonce au meeting. Mais le rencontring, c'est bien plus que cela. Se rencontrer à l'ancienne, c'est chronophage, c'est inefficace. Il faut structurer tout cela, signer des objectifs, des délais, des feuilles de route, un cadre. Heureusement, tout ça, ça existe dans le domaine amoureux. C'est le speed dating. Tout le monde connaît les pratiques du speed dating. Il ne reste plus qu'à l'adapter à la rencontre entre collègues dans une grande entreprise. Chaque personne est donc placée toutes les 7 minutes face à un nouveau ou une nouvelle collègue et emploie ses précieuses secondes à lui fourrer entre les oreilles une description de sa personne, sa fonction, ses occupations, la plus compacte possible. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Le bonheur sur Terre, quoi.
Ouais, je te crois. Et on continue avec les faux amis. Alors les faux amis, c'est particulièrement intéressant parce que se passe-t-il dans nos têtes quand on appelle un chef du personnel un directeur des ressources humaines, par exemple? Eh bien, il y a tout simplement un effacement et une dissimulation des hiérarchies. Ou encore quand on nous parle de réforme, qui annonce donc une stagnation, voire un recul, c'est-à-dire le contraire d'une réforme qui est censée améliorer les choses. Et on retrouve la même idée avec des termes comme démocratie, authentique ou naturel.
Et alors on va terminer avec cette longue liste qui n'a rien à voir avec une liste à la Prévert, donc avec la dernière catégorie qui s'appelle les faux ennemis. Que se passe-t-il dans nos têtes quand on appelle les cotisations patronales, qui sont en réalité nos amis, des charges sociales? Et puis on est dans la même logique avec par exemple le mot terroriste ou le mot délinquance.
Alors on a pris le temps de détailler les différentes catégories de cette langue de bois et il me semble maintenant légitime de se poser la question suivante. La novlangue, qu'est-ce que ça donne? Ou encore pour le dire autrement, avec les valeurs très utilitaires et fonctionnelles portées par le néolibéralisme, mon cher Hervé, la novlangue, à quoi ça sert? Quel est son intérêt?
Eh bien Mathieu, ça sert à modifier notre perception de la réalité, notre façon d'agir sur elle. La langue de bois néolibérale donne de l'espoir. Elle permet de continuer à rêver à un monde meilleur. Elle joue avec nos émotions, nous materne, elle rassure, elle protège de toutes les difficultés du monde et de ses inégalités.
Je crois que je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est un peu tiède, c'est moins transparent, c'est moins net et un peu plus flou. Elle atténue les inégalités, renomme la réalité de manière positive. C'est la positive attitude, quoi.
Bah, c'est tout à fait ça, Mathieu. Et surtout, on voit bien qu'elle permet de masquer les conflits d'intérêts, les désaccords politiques et moraux quant à la subsistance d'inégalités entre les gens. Elle permet de parler sans rien se dire, en donnant l'impression d'être intelligent. Elle décale les minorités et culpabilise les plus démunis. C'est à mon sens flagrant lorsqu'on entend parler d'assister au lieu d'évoquer les classes populaires.
Alors, pour nos auditeurs qui pourraient trouver toutes nos explications un petit peu trop abstraites, je vais essayer de donner un exemple très concret qui est tiré du livre « Le nouvel esprit du capitalisme ». Alors ça se passe dans une usine du côté de Sochaux et des ouvriers destinés à y travailler sont conviés en formation pendant 3 semaines dans un château, habituellement réservé aux cadres. Et durant cette formation, ils sont plus ou moins obligés de prendre l'engagement formel devant témoins de respecter les 10 commandements de la nouvelle organisation. Alors je vais vous citer quelques-uns de ces commandements. Il y a tout d'abord celui-ci. J'entretiens de bonnes relations avec le groupe et avec ma hiérarchie. Également, je suis présent au travail. Je suis disponible et je m'organise en conséquence. Je participe au minimum à un groupe de travail. Il y a encore « je fais des efforts pour être mobile », polyvalence, mutation, etc. Et enfin, à l'extérieur, je contribue à la bonne image de marque de l'entreprise. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'occasion de l'un de ces stages, un ouvrier qui refusa de s'engager à respecter les commandements en question fut prié tout simplement d'interrompre son stage et renvoyé dans son ancien poste, malgré le caractère illégal de l'engagement exigé. Et à mon sens, on voit bien ce qui se joue ici, et c'est la thèse qui est défendue dans le livre, c'est qu'il y a une sorte de mise en place de multiples dispositifs de développement et d'implication des personnes au travail. Et ceci est fait pour favoriser les prises de responsabilité et d'autocontrôle. Et si cela se fait, eh bien c'est parce que dans les faits, ces dispositifs ont réussi à produire un engagement accru des travailleurs et une réduction de leur distance critique.
Bon. Eh ben, vous pouvez souffler un peu, on en a terminé avec la première partie de l'émission qui est consacrée au fonctionnement du novlangue néolibéral. Et avant de se retrouver dans la deuxième partie de l'émission, pour continuer votre désintoxication, on va se détendre un peu les neurones en s'écoutant un morceau interprété par HK et les Déserteurs, et ça s'appelle Les Petits Papiers.
Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier du bas, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Papier musique, c'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps. Laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Papier machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu louches, et moitié fou. C'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie. Où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier du bas, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer.
Eh ben, nous voilà de retour pour la deuxième partie de votre émission La Gueule Ouverte, et qui, je le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement maintenant, est aujourd'hui consacrée à la langue de bois néolibérale, ce novlangue abominable qui colonise nos esprits, qui habille les mots d'un sens le plus souvent erroné. Et bien sûr, tout ça ne tombe pas du ciel. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous dire qui produit, qui diffuse cette langue vidée de son sens ?
Eh bien Hervé, ce que l'on peut dire, c'est que dans la grande majorité des éléments de langage diffusés dans l'opinion publique, Dans leur grande majorité, ils sont élaborés dans des officines que l'on appelle des think tanks et dont la fonction est de faire accepter le projet totalitaire marchand né aux États-Unis après-guerre, c'est-à-dire en gros la suppression de la totalité des services publics et la marchandisation, privatisation de toutes les fonctions sociales.
Alors, on va rappeler à nos auditeurs qu'il ignorerait ce qu'est qu'un think tank. Donc, il s'agit d'une institution de droit privé qui regroupe des experts plus ou moins spécialisés qui émettent des idées dans le domaine des sciences sociales, qui dispose, tout ça entre guillemets, bien sûr, d'une capacité d'analyse, de réflexion interne qui vise à faire des propositions de politique publique. Un think tank, on pourrait dire en français un laboratoire d'idées, selon la terminologie officielle dans les pays francophones. En France, certains parlent de cercle de réflexion pour désigner le phénomène plus général des clubs, des fondations ou autres associations de ce type qui se multiplient, des groupes de réflexion et d'influence. D'autres préfèrent le terme d'institut indépendant de recherche sur les politiques. Tous les partis politiques ont des think tanks. Pour le PS, c'est Terra Nova. Et quant à l'UMP, elle organise régulièrement le conseil de ces think tanks.
Tu prononces drôlement bien le mot. Tu peux le refaire une petite fois?
Le think tank.
Alors, autre exemple, le think tank le plus connu et le plus dangereux, à mon sens, enfin, en tout cas chez ATTAC pour l'Europe, c'est l'OCDE. Et pourtant, une radio de service public comme France Inter s'obstine chaque matin à nous en parler en l'introduisant par des formules de ce type, selon les experts de l'OCDE. Alors, contrairement à l'université ou au CNRS, l'OCDE n'est pas constitué d'experts, mais d'économistes ultralibéraux. Si on trouve que ça fait un peu trop théorie du complot, on peut lire à ce propos l'excellent livre de Keith Dixon, « Les évangélistes du marché ».
Alors, tout ça est à prendre vraiment au sérieux. De fait, les think tanks récupèrent les idées produites par la société civile, par les publicitaires, par les partis politiques du monde entier. Ils se les réapproprient, ils en font des livres, des articles, des colloques, des séminaires. Dans le même temps, des politiques et des intellectuels diffusent leurs idées par des prises de parole dans les médias qui sont relayées ensuite par toute l'éditocratie politique. Ils se soutiennent les uns les autres, diffusent leurs pensées avec une force de frappe impressionnante. Ainsi, penser autrement que dans le sens néolibéral, sans être taxé de complotisme ou encore d'extrémisme ou d'archaïsme, devient très difficile, voire c'est un rêve impossible.
Alors maintenant que nous avons fait un petit peu grossièrement le tour de la nouvelle langue de bois, enfin que la langue de bois néolibérale, excusez-moi, en expliquant dans la mesure de nos moyens et de nos connaissances la manière dont elle fonctionne, comment elle est produite et diffusée, une question évidente me vient à l'esprit, Hervé, et je compte sur toi pour m'éclairer. Et cette question, c'est comment on résiste ?
Ah ben, Mathieu, pour ma part, je vois deux pistes principales. D'abord, le jeu, jouer, et puis se former à la critique des médias. Première piste, le jeu et son corollaire immédiat. C'est l'humour. On peut par exemple jouer au conférencier, ce qui consiste à tenir un discours avec des mots aléatoires et vérifier qu'il est possible de produire des effets de sens et sans rien dire en réalité. Voici la recette. Tu prends 15 mots d'un jargon professionnel quelconque, tu les tires au sort et tu inventes au fur et à mesure un discours avec ces mots. Pour en voir un exemple en vidéo, je recommande à nos auditeurs de visionner le spectacle qui s'appelle « Inculture » de Franck Lepage sur le site www.scopelepavé.org que tu as cité tout à l'heure, à la rubrique « Conférences gesticulées ». Et ça, vers la fin du spectacle, et c'est vraiment drôle.
Alors, dans le même ordre d'idées, il est également possible de détourner le jeu du loto. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous inventez une grille de loto dans laquelle vous remplacez les chiffres par des mots de novlangue. J'en ai une petite liste que je vais vous communiquer. On peut remplacer par exemple avec le terme objectif, le terme projet, réforme, processus, démocratie, résultat, stratégie, compétence, efficacité, etc. Vous distribuez des grilles à chaque participant. Vous pouvez tout à fait inventer des grilles pour le journal de 20 heures, pour des discours préférentiels, pour des émissions de télé. À vous d'être créatif à ce niveau. Et dès que vous obtenez une ligne, une colonne ou une diagonale, vous avez gagné. Vous vous levez et vous criez « foutaise ».
Excellent. Donc un autre jeu possible, c'est de réutiliser les mots interdits dans nos conversations quotidiennes. Vous savez, tous ces mots qui risquent de vous faire passer pour un partisan du goulag. En voici une liste non exhaustive, bien sûr. Révolution, aliénation, peuple, lutte de classe, exploitation, masse, hiérarchie, domination et tous les autres. Ce jeu entraîne assez souvent quelques discussions animées au travail ou en famille. A fortement déconseillé pendant la période de Noël.
Tu m'étonnes. Il y a aussi le jeu appelé « Un chat, un chat ». Alors, ce jeu consiste à enlever la langue de bois d'un document institutionnel, par exemple, dossier de demande de subvention, un curriculum vitae ou une fiche de poste, et de la remplacer par ce que signifient vraiment ces mots. Alors, par exemple, vous remplacez le mot projet par le mot produit, ou lien social par contrôle social, ou adaptation par soumission. Vous pouvez également remplacer évaluation par contrôle, ou flexibilité par corvéable à merci. Vous voyez l'idée. Mon Hervé, peux-tu nous faire une petite démonstration avec une fiche de poste rédigée en non-langue de bois ?
Alors, je vais me lancer. Hein. Donc, voilà, je vais vous lire ma fiche de poste en non-langue de bois. Pour ce poste de slammer, administrateur de production et de diffusion, vous serez pris en étau entre des artistes émergents et des publics empêchés. Tout ça sera un peu chiant. Vous serez confronté à l'avarice des financeurs, à l'arrivisme des politiques et à l'égocentrisme des artistes. Vous vous débrouillerez seul, bien que vous soyez embauché en emploi aidé. Vous remplirez vos innombrables missions dans un stress permanent, toujours proche de la dépression. Alors vous vous souviendrez que la culture est une passion. Vous travaillerez avec vos collègues dominés en toute transversalité, c'est-à-dire que vous irez dans chaque bureau apporter des cafés. Vous serez le responsable des erreurs faites par les patrons et vous ne bénéficierez pas de notre plan stock option détournement de fonds. Vous travaillerez le week-end et en soirée. Ici, on fait de la subversion, sauf quand on remplit un dossier de subvention.
Pas mal, Hervé. À mon tour maintenant. On peut faire exactement le jeu inverse. Et dans ce cas-là, vous détournez un document en le rédigeant en hyper langue de bois. Alors moi, j'ai pris un petit exemple avec une lettre de rupture. Alors voilà ce que ça peut donner. Vous imaginez, vous êtes chez vous, hein, un monsieur, et vous allez recevoir le facteur sonne à la porte et vous recevez une lettre commandée de votre femme avec accusé de réception. Et ça commencerait comme ça. Relance. Objet assainissement du mode relationnel. Cher partenaire, suite à notre premier entretien collaboratif du 6-10-2011 à 23h30, concernant le non-respect de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat oral qui nous lie depuis le 1er avril 1981, je tiens, par la présente, à te notifier l'exercice de mon droit de retrait du projet de parentalité initié le 1er mai 1985, dont les objectifs opérationnels n'ont pas été atteints à ce jour. En effet, l'audit joint en annexe de notre relation fait émerger les manquements suivants. Petit 1. Manquement à exercer les compétences relatives à l'accomplissement du devoir conjugal. Petit 2. Abandon caractérisé des tâches relatives à l'entretien des surfaces collectives. Petit 3. Non-participation au processus de médiation susmentionné. Et enfin, petit 4. Violation de la clause de non-concurrence par l'exercice des compétences génitales en dehors du cadre contractuel. Conséquemment, pour le développement durable de nos individualités respectives, je t'annonce ma décision de parcours de vie dissocié. À toi, toujours.
Super, ce détournement, Mathieu. Je ne te dis pas que ça me donne des idées, mais j'en pleurerai presque. Quoi. Et maintenant, bon, on va parler de la deuxième piste dont je voulais vous entretenir, chers auditeurs. Il s'agit de se former à la critique des médias, ces acteurs surpuissants de la diffusion de la pensée unique, et à la critique de son langage, en signalant passant que les Français regardent en moyenne 4h30 la télévision par jour. Eh bien, assez paradoxalement, ça commence par moins s'informer, ou de manière pluraliste, mais comme c'est quasiment pas possible, comment avoir une autre information sur l'évolution du conflit israélo-palestinien que dans les grands médias ? Ça revient à moins s'informer. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui veulent tenter de se former, je ne peux que vous inviter à lire en presse écrite, par exemple la lettre d'Acrimed, à laquelle il faut s'abonner, ou à consulter leur site internet régulièrement. En vidéo, je vous conseille vivement de visionner la trilogie sur les médias de Pierre Carle, « Pas vu, pas pris »,« La sociologie est un sport de combat » et « Enfin pris ». Également, le film de Gilles Balbastre, « Les nouveaux chiens de garde ». Et puis, bien sûr, écoutez Radio Galère à haute dose.
Et bien voilà, cette deuxième partie de votre émission La Gueule Ouverte touche à sa fin et j'espère que vous vous serez autant amusés à l'écouter que nous à la faire. On va terminer en forme de petite bibliographie si certains d'entre vous veulent approfondir le sujet. Je vous rappelle les sources qui nous ont permis de concevoir l'émission. Donc en premier lieu, l'excellent site d'éducation populaire Le Pavé et leur non moins excellent site internet www.scoplepavé.org. Il y a aussi le livre culte de George Orwell 1984 et enfin le livre de Keith Dixon Les évangélistes du marché.
Et pour aller plus loin, nous vous recommandons également trois autres très bons bouquins, celui de Jaime Semprun, Défense et illustration de la novlangue française, qui est disponible aux éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, le livre d'Éric Hazan, LQR, la propagande du quotidien, chez Raison d'agir, et pour finir, La barbarie douce de Jean-Pierre Le Goff aux éditions La Découverte. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais c'est déjà pas mal.
Eh bien, merci mon bon Hervé, et merci à vous tous les auditeurs, hein, en tout cas ceux qui nous auront suivis jusque-là. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, on va s'écouter un morceau du regretté Yves Montand, et ça s'appelle « Les enfants qui s'aiment ». Les paroles sont de Jacques Prévert.
Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants, leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour. Dans l'éblouissante clarté de leur premier amour.
Maintenant à la dernière partie de l'émission avec l'agenda d'Attaque Marseille en avril-mai. Alors Hervé, qu'est-ce que nous a concocté Attaque ce mois-ci ?
Alors nous avons justement mardi 15 avril la projection d'un film qui s'appelle Les Déportés du Libre-Échange. Un film qui a été réalisé par Marie-Monique Robin, c'est la réalisatrice qui avait notamment fait Le Monde selon Monsanto. Alors Les Déportés du Libre-Échange, ça raconte comment à partir d'un accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, un accord qui prévoyait le bien-être pour tous, eh bien comment 16 ans après, le Mexique a vu son agriculture laminée. Comment dans le même temps, le Mexique s'est retrouvé envahi par du maïs transgénique américain et comment enfin 3 millions de paysans mexicains sont venus peupler les bidonvilles et essayer d'aller trouver du travail clandestinement aux États-Unis. Ça se passe à 18h30 au local d'Attaque Marseille, 29 boulevard Longchamp, dans le 1er arrondissement. Bien sûr, c'est gratuit. Et la projection sera suivie d'une discussion sur le traité transatlantique en cours de négociation qui nous promet le même paradis entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc ce traité qui s'appelle le célèbre TAFTA et qui sera animé par le groupe TAFTA d'Attaque Marseille.
Et c'est tout, non ?
Eh ben non, c'est pas tout. Il y a encore une autre projection, cette fois à la cafétéria du campus de Lumigny, avec nos amis de l'association Le Centre Culturel de Lumigny. Donc là, c'est le jeudi 17 avril à 20h, et le film s'appelle The Yes Men. Alors c'est quoi les Yes Men ? C'est un petit groupe d'activistes du canular qui dénonce le libéralisme. Ce documentaire raconte comment ils ont créé un faux site internet affilié à l'Organisation Mondiale du Commerce, et puis, leurs Russes fonctionnant au-delà de leurs espérances, ils parviennent à intégrer les rangs de l'Organisation Mondiale du Commerce, alors qu'ils y sont politiquement opposés. Ils se rendent de conférence internationale en conférence internationale, ils profitent alors de leur nouveau statut pour défendre leur point de vue et pour égratigner les manières du libre commerce mondial. Les Yes Men font partie des fondateurs du collectif activiste et artistique RT Mark, qui s'est fait connaître pour avoir échangé les boîtes vocales de 300 poupées Barbie et G.I. Joe avant de les remettre en magasin. Alors venez voir ces spécialistes du détournement et vous marrez un bon coup. C'est le jeudi 17 avril à 20h à la cafétéria de Lumigny. C'est également gratuit et il y a même de la petite restauration et à boire sur place.
Et puis quoi encore ?
Eh bien, figure-toi que Attaque Marseille fait feu de tout bois, et puis toujours le 17 avril, le même jour, mais à 19h, et cette fois au local d'Attaque Marseille, au 29 boulevard Longchamp, Attaque et la librairie Transit proposent une rencontre-débat avec Razmif Kecheyan. C'est l'auteur du livre qui s'appelle « La nature est un champ de bataille », c'est un essai d'écologie politique aux éditions de La Découverte. Donc là, il parlera du contenu de son nouveau livre, on pourra également discuter avec lui de bien d'autres choses. Donc l'entrée est libre, c'est le 17 avril à 19h au local d'Attaque, 29 boulevard Longchamp.
Bon bah ok Hervé, on arrête là ou quoi ?
Oui, ce coup-ci on arrête là, l'agenda est fini pour ce mois-ci. On va écouter une chanson du grand auteur canadien Félix Leclerc qui est interprétée par François Béranger, ça s'appelle « Le roi heureux, oui il y en a ».
Un carrosse embourbé, les attelages cassés, essayez de monter le fossé. Les chevaux ne voulaient plus tirer, se lamentaient les pauvres cochers. Le roi qui était dedans se dit intérieurement, c'est tant mieux, je suis content, car maintenant, qui pourra m'empêcher de marcher? Il y a si longtemps que je veux voir les champs. En sautant la clôture, il tomba dans des murs et salit son pourpoint de satin. Un vilain chien sans nom lui mordit le talon. La nature gênée refusa de chanter. Continuez de chanter, mes amis les oiseaux. Hélas, si vous connaissiez ma peine, vous vous installeriez sur ce grand merisier, vous chanteriez jusqu'à perdre haleine. Je m'en vais au palais pour briser un complot contre amé dans mon dos, mes sujets. Vous au moins demeurez avec moi, ayez pitié de ceux qui sont rois. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a plus de roi, ni de rue, ni de toit, ni de rien. Un grand souffle est venu qui a tout emporté. Reste un homme au manteau troué. Son manteau est troué, mais son cœur est léger. Il s'en va dans les prés, seul à pied. Son royaume à présent, c'est un petit toit de chaux et la terre lui est plus légère.
Et pour finir, chers auditeurs, voici notre traditionnelle devinette. Alors, elle est un petit peu longue aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt, Hervé ?
Vas-y.
Alors, qui a dit ? Deux points, ouvrez les guillemets. À force de répétition et à l'aide d'une bonne connaissance du psychisme des personnes concernées, il devrait être tout à fait possible de prouver qu'un carré est en fait un cercle. Car après tout, que sont cercles et carrés ? De simples mots. Et les mots peuvent être façonnés jusqu'à rendre méconnaissables les idées qu'ils véhiculent. Fermez les guillemets.
Alors là, bon, y a tellement de réponses possibles que je ne sais pas quoi te dire. Ça pourrait être aussi bien certains médias que des patrons, que des banquiers, des curés, des militaires, des politiques. Ça pourrait être Jean-Noël Guérini et la charte de son nouveau parti. Alors, moi, je ne sais pas. Éclaire ma lanterne, mon bon Mathieu.
Eh bien, écoute ça, Hervé. Il s'agit de Joseph Goebbels, le sinistre ministre de la propagande d'Adolf Hitler lui-même. N'oublions pas que c'est par la langue que le nazisme a conquis les esprits. C'est par les mots que son idéologie s'est répandue dans la société allemande, dans l'inconscient des individus. Comme tout langage, la langue nazie était en effet bien plus qu'un langage. C'était un monde, une sensibilité, une mentalité, une attitude, une manière de décrire et de caractériser la réalité, de figurer l'homme et les relations humaines. Celui à qui elle répugnait se rendait compte qu'il ne pouvait pas la parler du bout des lèvres sans être lui-même touché par le mal qu'elle contenait. Non pas simplement parce qu'elle était sale et répugnante, mais parce qu'elle amenait à penser et à sentir d'une certaine manière, faisant de vous un autre homme aussi longtemps que vous la parliez.
Terrifiant. Alors réfléchissez bien à ce que vous lisez, à ce que vous entendez. Pratiquez le désentubage cathodique et soyez vigilants. Alors après cette magistrale leçon de décryptage, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Cette émission sera rediffusée le mardi 15 avril de 14h à 14h30. Notre prochain rendez-vous, ça aura lieu le jeudi 8 mai à 15h et ce sera une spéciale Europe. Alors au mois prochain, et pour nous contacter, une seule adresse, accueil.attaque@attaque.org.
Salut tout le monde.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.